Et donc je vous propose, pour pouvoir poursuivre, étant donné que le budget primitif, l'actualisation des APCP et la reprise anticipée des résultats 2025 au budget primitif 2026 forment un tout, puisque à l'intérieur du budget, on a tous les investissements qui sont les APCP, je vous propose de, en tout cas, traiter ce point-là et de faire un débat le plus cohérent et le plus complet possible sur ces éléments-là. On aura un vote individuel sur chaque délibération, mais ça permet d'avoir une présentation complète et d'ouvrir le débat. Et de toute façon, ensuite, vous pourrez débattre soit de la section de fonctionnement, soit la section d'investissement, puisque les APCP en font partie. Et du coup, je passe la parole à Serge Scheuer.
Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Le budget primitif 2026 que nous vous présentons ce soir fait suite au débat d'orientation budgétaire du 11 février dernier, et il peut être voté jusqu'au 30 avril en cas de renouvellement des instances délibérantes. Rappelons le choix parfaitement assumé de ce calendrier budgétaire qui, à l'instar de nombreuses communes et collectivités, permet, dans un contexte plus que jamais marqué par des incertitudes, on le disait tout à l'heure, d'être le plus proche de la réalité financière et qui concourt ainsi à l'exigence de la sincérité budgétaire. Le budget primitif 2026 s'inscrit, à l'instar de ceux de la mandature précédente, dans une stratégie budgétaire responsable. Le cadre budgétaire fixé est respecté, la gestion des deniers publics est rigoureuse, claire et transparente. La santé financière de notre ville est saine. Le budget 2026 est conforme aux chiffres présentés lors du débat d'orientation budgétaire. C'est un budget de continuité tourné vers l'avenir. Tout ce qui a été engagé non seulement se poursuit, mais aussi se développe. Ce sont près de 10,8 millions d'euros qui sont investis cette année pour notre ville au service des îles Kirchois. Et ce sont plus de 14 millions d'euros en intégrant les reports de crédit de 2025. Alors avant de vous présenter dans les grandes lignes les deux sections de fonctionnement et d'investissement, un mot sur la reprise anticipée des résultats de 2025 qui fait l'objet d'une délibération séparée. Nous utilisons cette faculté qui nous est offerte par le Code général des collectivités territoriales d'inscrire au budget primitif la reprise anticipée des résultats. Nous avons abandonné une pratique passée qui avait recours à un emprunt d'équilibre qui, par nature, n'était pas utilisé, et nous donnons ainsi de la lisibilité et de la sincérité au budget. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2025 à affecter s'élève à 12 millions d'euros. Cet excédent permet de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement de 2,5 millions d'euros et de reporter la différence, soit 9,5 millions d'euros, en recettes de fonctionnement pour l'année 2026. Passons à présent à la section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 41 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 38,4 millions d'euros, dont 28,5 millions pour les dépenses réelles de fonctionnement. En ce qui concerne ces fameuses dépenses réelles de fonctionnement, quelles sont les grandes masses ? Alors nous trouvons les charges à caractère général, pour un montant de 7 100 000, en baisse de 0,8%. Y figurent dans ces charges l'achat des matières et des fournitures pour un montant d'1,8 million. Ce sont notamment toutes les dépenses de fluides, électricité, gaz, eau, combustible, carburant. Après une baisse significative de cette facture énergétique ces deux dernières années, grâce aux investissements réalisés dans le cadre du plan climat qui porte ses fruits, la facture énergétique devrait rester stable en 2026. La ville ne devrait pas subir de hausse importante de prix de l'énergie, notamment grâce au contrat de performance énergétique qui permet de bénéficier d'un prix fixe du gaz, et ce depuis le mois de mai 2025. Figurent également dans les charges à caractère général les services extérieurs pour un montant de 4 millions d'euros. Dans ces services extérieurs, il y a un poste qui s'appelle restauration scolaire, péri et extrascolaire. 1,3 million sont inscrits pour la prise en charge de repas dans le cadre du marché de la restauration scolaire et périscolaire. Nous avons une tendance haussière en raison de l'augmentation de la fréquentation. Ce sont plus de 118 élèves en moyenne par jour depuis septembre 2025. figurent également dans les charges à caractère général, les autres services extérieurs. Nous y retrouvons, on peut en citer deux sortes, l'une à la baisse et l'autre en hausse. Celle qui connaît une baisse, les frais de nettoyage de locaux qui sont revus à la baisse pour un pourcentage de 27%. Eh bien, la réforme du temps de travail des agents d'entretien, c'est une délibération du conseil municipal de 2024, a permis la non-reconduction de la plupart des marchés de nettoyage, tout en améliorant la qualité de service et également les conditions d'emploi des agents municipaux qui sont concernés. La hausse, elle, concerne le coût des transports, qui augmente de 123 000 euros, soit plus de 144%. Cette augmentation, elle est liée à la création de l'ouverture de 4 classes supplémentaires et la création de 56 places supplémentaires en accueil de loisirs. Cette augmentation d'effectifs entraîne mécaniquement une hausse des coûts de déplacement. Alors, les négociations qui ont eu lieu lors du renouvellement du marché de transport ont mis en évidence une hausse non négligeable des tarifs des opérateurs de transport. Il faut noter qu'un aller-retour en bus sur la commune est passé de 67,81 € à 146 euros. Et toutes les sociétés qui ont répondu à l'appel d'offres ont répercuté un contexte inflationniste sur ces tarifs, qu'il s'agisse des frais de structure, on peut citer les coûts de personnel, mais également les frais de matériel et le coût de l'énergie. Autre poste significatif dans les dépenses réelles de fonctionnement, ce sont les charges de personnel. Elles s'élèvent à 16,6 millions d'euros, en hausse de 4,7%. Cette hausse est due, pour une part importante, à des mesures exogènes prises par nos gouvernements. Nous constatons notamment une hausse continue des taux de cotisation vieillesse et de retraite. Le taux de cotisation vieillesse augmentera à nouveau de 3 points, et ce jusqu'en 2028, pour porter la charge patronale de 31% à 43%. Cette charge supplémentaire représente 200 000 euros pour l'exercice 2026. Si cette revalorisation n'existait pas, l'évolution des charges du personnel serait de 3,4% au lieu des 4,7%. Aux mesures exogènes s'ajoutent des mesures que nous avons prises, notamment le renforcement de l'encadrement pour les services périscolaires et extrascolaires, mais aussi des mesures dans l'intérêt des agents et de leur protection, et notamment, et on peut citer, la hausse de la participation de la collectivité à la complémentaire santé. Troisième chapitre des dépenses de fonctionnement, les autres charges de gestion courante pour un montant de 4,6 millions. Alors cette évolution, une évolution de 3,2%, s'explique en grande partie par l'augmentation de la compensation pour contrainte de services publics que verse la ville dans le cadre de la DSP relative à la gestion des structures d'accueil de la petite enfance. L'enveloppe de 220 000 euros versée en 2025 sera réinscrite cette année et une aide financière exceptionnelle de 150 000 euros est ajoutée pour soutenir le délégataire. Par ailleurs, on verse un montant à la SPL Lilia dans le cadre également de la délégation de services publics et le montant versé s'élève à 2,5 millions. Parmi les subventions, on va pouvoir citer celle qui est importante, qui est la subvention allouée au CCAS, qui est de 230 000 euros et qui se voit soit plus 8% par rapport au budget de l'année dernière. Et les subventions qui sont allouées aux associations s'élèvent à 558 000 euros. C'est relativement stable, c'est plus 0,8% par rapport à 2025, donc il n'y a aucune baisse en la matière. Après avoir évoqué les dépenses réelles de fonctionnement dans les grandes lignes, un mot sur les recettes réelles de fonctionnement. Le total de ces recettes s'élève à 31,5 millions, soit une augmentation de 1,8%. Le chapitre le plus important est le produit fiscal. Il représente 24,3 millions, une augmentation d'à peine 1,2%, et ces recettes, ce produit fiscal, représente 70% des recettes. Pour mémoire et conformément aux engagements pris, on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura aucune augmentation des taux d'imposition en 2026. Autres recettes, ce sont les dotations et les participations reçues pour pour un montant de 229 000 euros. On peut citer notamment la dotation forfaitaire qui est orientée, elle, à la baisse. Elle est inscrite pour un montant de 825 000 euros. Et nous avons la DSU, la dotation de solidarité urbaine, qui, elle, est en légère hausse. Je poursuis à présent et je vous propose de passer à la section d'investissement. Sont inscrits dans les dépenses d'équipement 10,8 millions d'euros, auxquels on va rajouter 2 millions de restes à réaliser, soit un total de dépenses de 12,8 millions d'euros qui sont investis pour notre ville. Alors, sans être exhaustif, on peut citer quelques investissements, dont ceux qui font l'objet de la délibération portant actualisation des autorisations de programme. Alors, le chantier du hall des sports qui suit son cours et qui bénéficie d'une enveloppe de 6 millions d'euros pour une livraison prévue fin 2026. Nous avons la rénovation et en tout cas l'aménagement du site de la FAIG qui se poursuit pour un montant d'1,2 million. Le secteur de la Schlossmatt qui va bénéficier d'une enveloppe de 50 000 euros pour les études opérationnelles. 200 000 euros sont fléchés sur la maison de l'enfance, de la jeunesse et des associations. 150 000 euros pour les aires de jeu du Guirlenich, l'augmentation de l'offre ludique sur cet espace-là. En matière de sécurité, ce sont 530 000 euros qui sont dédiés à la poursuite du déploiement de la vidéosurveillance. 200 000 euros sont mobilisés pour sécuriser les infrastructures informatiques avec l'installation de nouvelles caméras. On peut également citer la transformation et la poursuite de l'éclairage public pour un montant de 161 000 euros, la végétalisation des cours d'école qui se termine, notamment à l'école maternelle de l'Orme et de Liberman pour un montant de 250 000 euros, l'acquisition du terrain rue Schantzmatt pour 315 000 euros avec un aménagement d'un jardin pédagogique. Et puis, deux enveloppes qui correspondent à des restes à réaliser. Ce sont 173 000 euros qui sont inscrits pour le terrain du Krieg et 204 000 euros pour l'école Adélaïde Oval qui font également partie de la délibération concernant les autorisations de programme et crédits de paiement. Vous retrouverez évidemment le détail dans les tableaux qui sont annexés dans la note de présentation. Pour terminer, affichons quelques indicateurs et ratios financiers très satisfaisants avec une épargne de gestion de 3 millions, une capacité d'autofinancement qui est du même acabit 3 millions et un taux de CAF de 10%. En ce qui concerne la situation de la dette, l'intégralité de l'encours de la dette de la ville est classée A-1 en fonction des critères de la charte de bonne conduite qui correspond au niveau le plus faible en matière de risque financier. En conclusion, Monsieur les maires, Mesdames, Messieurs, le budget que nous vous présentons confirme tout le chemin parcouru depuis 2020 et ce, en dépit de nombreuses crises que nous avons traversées, sanitaires, énergétiques, inflationnistes, politiques, géopolitiques. C'est un chemin parcouru avec un engagement fort à transformer et à moderniser notre ville tout en préservant une gestion rigoureuse et dynamique. Toutefois, nous subissons, à l'instar de toutes les collectivités, un contexte national des finances publiques qui se dégrade et qui s'impose à nous. Rappelons que la loi de finances initiale prévoyait une contribution des collectivités de près de 4 milliards d'euros. Elle a été au final de l'ordre de 2 millions d'euros, avec pour conséquence des tensions sur les recettes. L'effort budgétaire demandé l'an prochain pourrait se situer autour de 5 milliards d'euros. L'autonomie fiscale des collectivités se réduit considérablement avec une compression des marges. La bonne santé financière de notre ville nous permet d'affronter les défis et les enjeux à venir. C'est dans cette perspective que nous allons construire la feuille de route des prochaines années. Ce soir, c'est un budget responsable et tourné vers l'avenir que je vous invite à adopter. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Scheuer. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, Madame Magdelaine et puis Monsieur Vivet. Madame Magdelaine, je vous en prie.
Monsieur le maire, chers collègues, chers publics, nous examinons aujourd'hui un budget que Monsieur Scheuer vient de présenter comme responsable et tourné vers l'avenir. Pour Pourtant, plusieurs éléments essentiels manquent de clarté. D'abord, vous assumez vous-même qu'il s'agit d'un budget de transition, en indiquant que les priorités stratégiques feront l'objet d'un travail approfondi dans les prochains mois, et qu'une décision modificative en septembre viendra ajuster les choix politiques. Nous votons donc un budget sans connaître la feuille de route réelle de la mandature. Pour une ville qui revendique la transparence, c'est un problème démocratique majeur. D'autant plus que vous nous proposez de voter ce budget alors que l'année 2026 est déjà bien entamée. Ensuite, le suréquilibre de fonctionnement que vous mettez en avant, plus de recettes que de dépenses, ne provient pas d'une maîtrise durable des dépenses, il provient presque entièrement de la reprise anticipée du résultat 2025 que vous nous aviez proposé de voter en amont de ce budget et que vous nous proposerez de voter tout à l'heure, soit 9,52 millions réinjectés dans le budget. Ce que vous présentez n'est pas un signe de bonne santé structurelle. Il masque la réalité des tensions financières. Le rapport lui-même reconnaît une équation qui sera sans doute de plus en plus difficile à résoudre à l'avenir. Nous aurions besoin d'une analyse sincère des risques financiers, pas d'un effet d'affichage. D'autant plus que vous engagez la ville sur des investissements très lourds. Le hall des sports, la FAIG, la maison de l'enfance, de la jeunesse et des associations, la requalification de la Schlossmatt, près de 40 millions d'euros d'ici 2030, sans fournir de trajectoire consolidée sur la question de l'épargne, de la dette ou les marges de manœuvre futures. Le rapport se satisfait d'ailleurs d'une stabilité des coûts, des combustibles et des carburants et ne tient absolument pas compte des risques financiers liés au contexte actuel, au contexte international et en particulier au conflit en cours au Moyen-Orient. Et nous savons que ce conflit a déjà provoqué des tensions sur les marchés de l'énergie, du transport maritime et de certaines matières premières. Plusieurs analyses économiques indiquent que ces tensions peuvent entraîner une hausse du coût de l'énergie, notamment du gaz et du pétrole, une augmentation des prix des matériaux de construction, des retards logistiques qui vont renchérir les chantiers et une inflation qui va peser sur les dépenses de fonctionnement. Or, notre budget 2026 repose sur des hypothèses de coûts très stabilisées. Le rapport précise que la planification complète n'arrivera qu'aux orientations budgétaires 2027, que nous souhaiterions avoir au mois de novembre. Autrement dit, nous votons des engagements pluriannuels sans visibilité financière. Pour finir, la démocratie financière reste très limitée. Les habitants ne sont associés ni aux arbitrages, ni aux grands projets, alors même que vous affirmez vouloir garantir la transparence nécessaire à la gestion des deniers publics. Le projet de la Méja n'a fait l'objet d'aucune concertation, ni avec les habitants et encore moins avec les élus, alors même que le concours a été initié en fin d'année 2025 et que les réponses sont en cours d'analyse par les services. Nous nous étonnons également du montant de 11 millions d'euros prévu pour les travaux à la FAIG. Une présentation détaillée du projet pour l'ensemble des élus aurait été appréciée. Pour toutes ces raisons, manque de lisibilité, absence de stratégie financière claire, déficit de transparence, nous ne pouvons pas approuver ce budget en l'état. Mais notre position n'est pas un refus de principe, c'est un appel à une gestion plus sincère, plus partagée et plus rigoureuse, comme vous aviez indiqué vouloir le faire lors de la séance d'installation du Conseil municipal. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Vivet.
Monsieur le maire, à la lecture de votre budget primitif, nous pouvons dès lors, dès les propos introductifs, s'étonner de ce temps figé, quasiment jusqu'à fin 2027. Alors bien sûr, le nouveau gouvernement qui sera issu des urnes l'année prochaine présentera son budget de loi de finances à l'automne 2027 et c'est là que nous aurons un certain nombre vraisemblablement d'orientations structurantes qui auront été débattues et tranchées par l'élection présidentielle. Néanmoins, vous connaissez déjà votre trajectoire budgétaire globalement puisque de toute façon les consignes ont été données aux administrations centrales de faire atterrir le budget de l'État à 5% et les budgets de la sécurité sociale à 24,5 milliards d'euros de déficit et que les budgets 2027 sont déjà en train d'être travaillés et présentés pour être prêts dès début août. Donc, le gouvernement travaillant effectivement, simplement à conduire les affaires courantes. Pas plus tard que cet après-midi, on a annoncé que la loi sur la décentralisation se limiterait à de simples prérogatives pour les préfets. Par conséquent, au niveau national, et les comptes se dégradent très fortement au niveau des entreprises, avec une croissance qui est notamment artificielle. Tout le monde sait que les 0,8% claironnés en début d'année n'étaient qu'un ajustement de trésorerie de 31 milliards d'euros. Et que nous avons une inflation qui est à 1,9 à la fin du mois, qui sera vraisemblablement à 2,1 à la fin du mois de mai si la conjoncture continue. Il est donc très surprenant de ne pas retrouver dans ce budget un certain nombre de mesures structurelles ou d'amorces de débat. Premier point, on l'a commencé déjà à l'évoquer, M. Scheuer l'a présenté, la question du coût des activités périscolaires, de restauration scolaire, extrascolaire, qui sont intégralement prises en charge par la ville. À ce sujet, je pense que le rapport de la Cour des comptes qui vient d'être publié posera un certain nombre de points qui seront à débattre. On aura l'occasion notamment d'en débattre avec Mme Dreyfus sur la stratégie complète en matière d'enfance sur ce mandat. Mais la question du financement et de la participation d'un certain nombre de familles se posera. Notamment, faudra-t-il retenir le quotient familial, faudra-t-il revenir l'impôt sur le revenu, les déclarations fiscales. Enfin, tous ces points mériteront d'être débattus. Je ne vois aucune action d'économie ou d'ajustement sur les frais de réception, les cérémonies, les dépenses de formation, là où l'intégralité des services publics ont consigne de figer, voire de baisser ou de prioriser d'ici la fin de l'année jusqu'à 2027. C'est quand même très surprenant. Alors sur les charges de personnel, plus 4,7, vous l'avez dit, M. Scheuer, et c'est tout à fait exact, vous avez le GVT sur lequel vous ne pouvez rien faire, vous avez la réforme des retraites. Alors réforme des retraites, je pense que je vais vous l'annoncer un petit peu en scoop, ça va être encore pire que ce que vous pouvez imaginer, puisque le gouvernement a demandé au corps de dégrader les prévisions de 1,6 enfants par femme à 1,4, et malheureusement la CNRCL, hein, puisque c'est d'elle dont on parle, qui gère les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, une des caisses les plus en difficulté. Donc vraisemblablement que les efforts que nous aurons à faire pour assurer ce régime de retraite, hein, qui est quand même de plus en plus dérogatoire à la normale, mais ça c'est un autre débat, pèsera certainement dans la trajectoire budgétaire des comptes pour les 6 années qui viennent. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est de ne pas retrouver, ne serait-ce qu'en prorata temporis dans ce budget de 2026, l'augmentation des effectifs de la police municipale et puis le personnel en charge effectivement de tout ce qui est vidéo-verbalisation et surveillance, puisque c'était comme une promesse de campagne, qu'on a une équipe et qu'au moins on aurait dû retrouver une trajectoire budgétaire sur ce point. Alors on ne va pas débattre des chiffres de la délinquance, hein. Ils sont tombés, ils sont à plus 3,1% pour 2025 pour Ilkirch, mais ça sera un autre sujet de débat. Donc pour moi, la trajectoire a été plus sincère vers 1,3 million d'euros d'augmentation sur les charges de personnel. Bon, sur les personnels et l'externalisation aussi du ménage et les indemnités journalières que vous avez évoquées, moi je serais quand même curieux de voir à moyen long terme, vu la pénibilité de ces métiers, si ce qui peut apparaître gagnant en termes de service n'est pas finalement perdant. Dans les hôpitaux, on emploie jusqu'à 20% de ce type de personnel. On a déjà eu des débats internalisés, externalisés. Mais si on n'a pas une stratégie que la médecine du travail et la pénibilité de l'emploi, ça coûte extrêmement cher, malheureusement, vu la pénibilité de ces métiers en coût de gestion. Quant au CCAS, plus 8%, 230 000 euros d'augmentation. Alors là, les bras m'en sont un peu tombés. Parce que je suis quand même assez surpris. Les prestations sociales augmentent en France de 0,8%. On a quand même une action sociale des CAF individualisée qui est quand même assez performante avec plus de 42 prestations extra-légales qui sont disponibles. Donc je veux bien qu'on fasse du social et qu'on accompagne les personnes, mais là j'avoue que le taux de progression est quand même assez surprenant. Sur les subventions, je pense qu'on gagnera en lisibilité quand même à avoir une stratégie et une lisibilité annuelle ou pluriannuelle, parce que si on regarde tous les conseils municipaux, en permanence plus 33, plus 77, plus 16, tout ça n'aide pas quand même à une visibilité. En ce qui concerne les recettes, sur la revalorisation forfaitaire, on a déjà eu le débat effectivement des bases fiscales, on ne va pas y revenir. On a évoqué la question du financement des services publics, la baisse du nombre de contribuables. Je pense qu'à Ilkirch, on a 42% de foyers fiscaux qui contribuent au fonctionnement de la ville. Ça aussi, vous aurez l'occasion de nous le présenter avec des chiffres actualisés du Trésor. Moi, je pense qu'il était nécessaire de baisser les impôts et de donner un signal effectivement à l'ensemble des contribuables, mais c'est un choix politique qui vous appartient. Sur les investissements, moi je ferai la même remarque que Madame Magdelaine. Je note le volume important d'investissement. Moi ce qui m'intéresse sur notamment la halle des sports comme la SIC, c'est l'économie générale de fonctionnement de cet outil. Sur la FAG, c'est pareil, je pense qu'il serait intéressant de voir la présentation du projet global, parce que bien évidemment c'est le club le plus important et il y a une stratégie de rénovation de leurs locaux, ça personne ne la conteste. Et puis la question du tennis club, là aussi il y a un plan national de revitalisation et de subvention pour la rénovation des courts de tennis, donc je pense que vous aurez l'occasion de nous présenter une trajectoire complète sur la partie des sports. Voilà, vous connaissez ainsi ma position, hein, sur le budget. Je voterai contre, car conformément à notre position, Bien évidemment, nous n'aurions pas fait les mêmes choix en matière de fiscalité, pas fait les mêmes choix en matière de dépenses de personnel, de subventions. Et donc, au final, moi, je parlerai plutôt d'un budget de renoncement. Alors, pas un renoncement à dépenser, mais plutôt un renoncement à commencer à faire des choix sans attendre 2027.
Merci, Monsieur Scheuer.
On m'entend pas. Ouais. Merci, Monsieur le maire. Alors, moi, je pense que rien n'est figé, Monsieur Vivet. On atteste tous les investissements qui sont fléchés, les projets qui sont en cours, qui se terminent. Alors, on n'a jamais non plus nié l'effet ciseau hein, dont on parle, avec une augmentation effectivement des dépenses de fonctionnement liées à des points d'indice, à l'énergie. À l'inflation quand elle était en place, par des mesures prises exogènes prises par des mesures nationales et des recettes qui augmentent moins vite. Mais je pense pouvoir dire qu'on a su avec agilité faire face à des crises sans précédent pendant le mandat précédent. Je rappelle qu'on est venu aux responsabilités en pleine période du Covid et que nos ratios, nos indicateurs et la bonne gestion que nous avons effectuée sur le mandat précédent nous permettent d'affronter les défis qui nous attendent. Madame Magdeleine, vous parliez de ne pas associer les habitants. Je crois que les habitants ont été associés en s'exprimant tout simplement dans les urnes il y a quelques semaines.
Bien, merci, Monsieur Scheuer. C'est vrai que je suis quand même surpris qu'on dise que c'est un budget de renoncement, que c'est quand même un budget qui n'est pas transparent, qui n'est pas clair, puisque aujourd'hui, l'intérêt, c'est que c'est quand même un budget qui fait suite à un débat d'orientation budgétaire, où il y a une stratégie budgétaire qui a été établie. Je vous rappelle que dans la stratégie budgétaire, il y avait justement le fait de ne pas augmenter les taux d'imposition. C'est quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur de ce budget. Il y a le choix de ne pas augmenter les tarifs aux familles, notamment pour la restauration scolaire et le périscolaire. C'est quelque chose qu'on retrouve dans ce budget. Et c'est d'avoir une capacité d'autofinancement supérieure à 3 millions, puisque c'est aujourd'hui un élément central pour pouvoir tenir justement ce plan d'investissement sur les prochaines années. Et c'est d'ailleurs le seuil sur lequel on s'est engagé, en plus de la reprise anticipée du résultat, mais qui, d'une certaine manière, n'est pas un mystère, puisque c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des années. Et vous savez bien, pour avoir été aussi dans des responsabilités, qu'à aucun moment, la capacité d'autofinancement d'une commune ne suffit à financer l'ensemble des investissements. C'est très rare, quand même, qu'on ait un budget en suréquilibre suffisant pour pouvoir financer l'ensemble des investissements. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des plans pluriannuels d'investissement. C'est pour ça aussi qu'ensuite, il y a des recours à l'emprunt qui sont possibles pour pouvoir emprunter et rembourser sur un certain nombre d'années cet emprunt, mais à aucun moment on arrive à sortir des capacités d'autofinancement gigantesques, ou alors ça voudrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de services qui sont exercés pour la population en section de fonctionnement, et donc que par le miracle, on arrive à les remettre en investissement, ce qui ne serait pas un bon choix. Et donc, moi, ce qui m'étonne, c'est quand même que quand vous dites que la population n'a pas été intégrée, je prends rien que le projet de la Schlossmatt. Je pense que sur la Schlossmatt, la population a été largement intégrée, puisqu'il y a eu plusieurs réunions publiques. Il y a eu un atelier quand même qui a permis de pouvoir demander aux habitants les orientations. C'était d'ailleurs dans cette salle ici hein, qu'il y a eu toute une matinée d'un atelier pour pouvoir demander l'avis aux habitants, ce qui était souhaitable, moins souhaitable. Il y a eu des restitutions qui ont été produites. Il y a eu une présentation à la fois en réunion publique, mais aussi dans l'infographe. Et dans l'infographe, la porte a été ouverte aux habitants pour pouvoir faire des retours par courrier, par courriel. Et d'ailleurs, on a eu un certain nombre d'habitants qui nous ont fait encore des retours qui sont tout à fait intéressants. Et des éléments ont été pris en compte en se disant peut-être qu'à tel endroit, vous souhaitiez mettre tel élément. Il faudrait peut-être le mettre plutôt à tel endroit. Enfin voilà, donc c'est intéressant. Mais ce qui est particulièrement satisfaisant sur ce projet, c'est que globalement, personne n'a remis en cause l'équilibre global du projet, qui est de créer un parc assez important au sein de la ville, dans ce secteur-là, qui mérite aussi d'avoir un certain nombre d'investissements, puisque c'est un secteur où il n'y a pas forcément eu toujours beaucoup d'investissements qui ont été produits et réalisés, et d'avoir une valorisation de ces berges de l'île, puisque ces berges de l'île, aujourd'hui, sont très peu mises en valeur, à alors que c'est une des richesses naturelles de notre ville et que c'est dommage de ne pas avoir cette mise en valeur des richesses naturelles. Donc je pense que les habitants ont bien été intégrés, tout comme sur le Forum de Lille, où il y a eu quand même un travail de participation citoyenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les retours sur le Forum de Lille sont tout à fait positifs. Donc les gens sont intégrés. Quand on a construit le hall des sports sur le projet initial, et l'adjoint au sport pourrait en témoigner, dès le départ, le club qui va occuper les locaux en majorité, à savoir la SIG, a été intégré dans tout le processus. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été réalisées parce que le club a demandé tel ou tel aménagement, tel ou tel espace à tel endroit parce que c'était plus utile pour le fonctionnement du club. Et la même chose est faite en ce moment avec la FAIG. Alors, il y a eu les deux demi-terrains. Par exemple, au départ, les deux demi-terrains, il y en avait un seul qui était homologué et ça posait problème au club. On a retravaillé le projet, on a remouliné avec le bureau d'études qui travaille avec nous et donc on va faire deux terrains homologués parce que c'était une nécessité pour le fonctionnement du club. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a un travail qui est fait avec le club en question. Et donc, d'une certaine manière, alors certes, ce n'est pas l'ensemble de la population qui y participe quand c'est un équipement de ce type-là, mais c'est les usagers qui l'utilisent quotidiennement et c'est les membres du club qui l'utilisent quotidiennement. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a ce dialogue qui est fait avec les différents utilisateurs finaux, tout comme c'est fait avec... L'école Adélaïde Oval. L'école Adélaïde Oval, le projet qui avait été laissé, par exemple, il n'y avait pas de végétalisation de la cour, il n'y avait pas certains espaces qui étaient prévus. On a modifié un certain nombre d'espaces. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des modifications par rapport au projet initial. Donc, il faut quand même le prendre en compte qu'il y a ce travail participatif. Et quand vous évoquez le conflit au Moyen-Orient, c'est vrai que le conflit au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui est une réalité, on ne le nie pas. Néanmoins, aujourd'hui, on a un contrat de performance énergétique qui nous a permis de toper les prix sur le gaz et l'électricité pendant un certain nombre d'années, ce qui pour l'instant nous met en tout cas à l'abri, sachant qu'on a déjà sur le mandat précédent vécu une crise énergétique. Donc je dois dire qu'on commence à avoir l'habitude de gérer des crises énergétiques puisque c'est des choses qui nous sont déjà tombées sur le coin de la figure et qu'en matière de carburant, pour le moment, on n'a pas fait de réajustement puisque... Rappelez-vous, l'année dernière, on avait choisi de renouveler une grosse partie du parc, notamment des véhicules légers, sur lesquels on est passé en voiture électrique, sachant qu'il y a une grosse partie aussi de notre flotte qui est déjà en biocarburant. Donc c'est vrai que finalement, la dépendance à la partie carburant fossile pur, à savoir l'essence, est quand même très limitée dans la collectivité, sachant qu'on a quasiment plus de véhicules diesel. Hein. On reste sur quelques véhicules diesel, sur des véhicules lourds, hein, type poids lourd, puisque parfois les alternatives existent moins facilement encore sur la proposition. Mais c'est vrai qu'une grosse partie des véhicules qui roulent au quotidien pour nos services techniques ou pour les services de la ville ont été basculés en véhicules électriques. Et donc forcément, on est un tout petit peu moins sensible à l'oscillation des prix du carburant tel que on le connaît, mais ça fait partie justement des sujets qu'on regardera avec attention pour ne pas se retrouver pris au dépourvu, comme le disait la fable. Et je dois dire que pareil, quand vous dites les projets n'ont pas été présentés, je vous rappelle quand même que dans les APCP, là il y a une mise à jour des APCP dans la délibération, mais je vous rappelle qu'il y avait des fiches qui accompagnaient chacune des APCP avec justement une explication complète du projet, que ce soit la Maison de la Jeunesse et des Associations, que ce soit le projet de la FAIG. Tout ça avait été prévu. Après, bien évidemment, aujourd'hui, il y a un choix, par exemple, qui va se faire à travers un jury. C'est aussi à travers ce jury-là qu'on aura des projets avec des esquisses, comme on l'a fait pour le hall des sports. Et c'est à partir de ces esquisses qu'on pourra consulter. On pourra présenter à tout le monde, aux utilisateurs, aux usagers. On pourra présenter un projet qui est un peu plus abouti. Et c'est à ce moment-là où on a une possibilité avec le maître d'œuvre qui sera désigné de pouvoir aussi modifier le projet. C'est ce qui s'est passé avec la SIG, hein, avec le hall des sports. Il y avait un projet initial avec une esquisse. Derrière, il y a eu un projet qui a été précisé. Et quand je pense à la partie fonctionnement, effectivement, on parle du périscolaire, on parle de la restauration scolaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le choix qui a été fait de ne pas mettre en place des quotas pour limiter l'accès à ces services publics, C'est un choix qui est sain parce que je ne me verrais pas, en tout cas, et je pense que Mme Dreyfus et aucun élu ici autour de la table se verraient se dire « Toi, tu as le droit d'aller à la restauration scolaire, toi, tu n'as pas le droit » par rapport à des critères alors qu'ils seraient peut-être déterminés, je ne sais trop comment, mais je pense qu'aujourd'hui, la qualité de vie d'Ilkirch-Grafenstaden, elle se fait aussi par le service à la population qui est donné, et notamment le service aux familles. Il y a déjà une tarification sociale et solidaire qui existe, hein, puisque le repas pour la première tranche est proche d'un euro et le repas le plus cher est plutôt à 7 euros. Donc il y a justement cette élasticité entre les différents tarifs en fonction des revenus des familles, hein, ce qui existe aussi pour le périscolaire. Et donc il y a une contribution qui est faite en fonction de la capacité justement des familles, notamment par rapport aux coefficients familiales. Donc c'est déjà quelque chose qui a été mis en œuvre, qui d'ailleurs avait été étendu à la villa pour toute la partie école de musique. Donc voilà, c'est quelque chose qui se pratique. Et quand vous dites « nous ne faisons pas d'économies », on a fait des économies. Quand vous regardez dans le document, il y a 40 000 euros, par exemple, sur le sujet de la formation. On a optimisé au maximum, par exemple, la formation avec un plan de formation qui a été le plus stabilisé et le plus précis possible. On a travaillé sur une optimisation, notamment de nos marchés, notamment pour l'impression d'infographes, parce que dans les 88 000 euros qui sont dédiés aux imprimés, qui est finalement l'impression principale dans la ville, ce qui coûte le plus cher, c'est l'infographe. Si vous prenez en regard les 55 000 euros de régie publicitaire, vous regardez que finalement l'équation qui est faite aujourd'hui sur infographe est plutôt une équation intéressante, puisque la régie publicitaire à 55 000 est en augmentation de 5 000 euros. Et donc, il n'y a peut-être pas de baisse, parce que malheureusement, le coût de l'impression du papier aujourd'hui est quelque chose qu'on maîtrise un tout petit peu moins et qui fait suite à un marché public. Par contre, le fait d'avoir des recettes supplémentaires en matière de régie publicitaire, c'est intéressant, puisque mis l'un dans l'autre, ça permet de finalement maintenir un coût d'impression qui est supportable pour la ville. Et donc, encore une fois, par exemple, sur la communication, c'est une des seules dépenses de communication, puisque comme ça a fait l'objet pendant le dernier mandat de plein de fantasmes sur la communication, parce que je me souviens que j'étais le maire qui dépensait comme un fou furieux pour la communication, mais en fait, en réalité, les dépenses de communication dans cette collectivité, c'est essentiellement concentré dans l'impression de l'infographe. Il y a une fois de temps en temps une petite plaquette pour annoncer le marché de Noël ou le printemps des bretelles. Et puis sinon, en fait, comme c'est les réseaux sociaux et plein d'autres supports, c'est des choses qui ne coûtent pas physiquement d'argent quand on fait une publication sur Facebook. Et donc, effectivement, bah, on reste sur des coûts qui sont tout à fait maîtrisés, tout comme d'ailleurs toutes les cérémonies et les réceptions, hein, puisque depuis tout le mandat dernier et jusqu'au mandat de maintenant, hein, on garde un maintien justement des frais de réception. Il faut quand même savoir que j'avais réduit énormément les frais de réception, puisqu'on avait évité un certain nombre de repas qui permettaient aux élus de pouvoir se sustenter. Hein. Alors ça m'avait été reproché en fin de mandat, mais c'est quelque chose que j'avais souhaité supprimer, et que les réceptions étaient largement limitées à leur portion congrue, tout comme d'ailleurs les vœux du maire, hein, où on est sur un budget tout à fait constant, hein, par rapport à mon prédécesseur. On a gardé exactement le même budget toutes ces années, on n'a jamais augmenté d'un seul euro. Et donc, effectivement, on fait de l'optimisation à chaque fois sur les différentes prestations qui sont mises en œuvre. Il y a pas mal de choses qu'on fait en interne pour organiser, pour penser, pour préparer. Mais ça permet de maintenir le budget, puisque l'intérêt, c'est que l'essentiel du budget de la commune soit consacré au service public qui est donné à nos concitoyens. Et je pense que c'est quelque chose qui est fait. Et quand on voit le niveau d'investissement, justement, je pense qu'il y a cette intérêt de voir qu'on continue à investir fortement, que forcément il y aura d'autres APCP qui seront créés. Par exemple, je pense au tennis club d'Ilkirch, hein, ça va être un nouveau sujet qui sera créé, puisqu'il y a une maîtrise d'œuvre qui sera désignée aussi pour la rénovation et la couverture de deux cours qui existent aujourd'hui sur le secteur du tennis club d'Ilkirch-Grafenstaden. Mais voilà, il y a une continuité, et donc c'est pas parce qu'il y aura un ajustement en septembre et ensuite en 2027 au débat d'orientation budgétaire, qu'il y aura une remise en cause de ce qui est fait. En fait, c'est peut-être juste des ajustements par rapport à un programme qui a été reconnu par les habitants de la ville et qui souhaitent qu'on puisse le mettre en œuvre. Et donc, on le mettra bien en œuvre, bien évidemment, avec raison et sérieux, et prudence parfois au regard du contexte, mais je pense qu'on a démontré sur un premier mandat qu'on savait faire malgré les crises successives, puisque finalement, quand on parle de la crise au Moyen-Orient, certes elle existe, mais on a tellement eu de crises depuis le dernier mandat qu'à force, on devient des gestionnaires de crise au quotidien, et donc ça devient presque une forme de normalité, et donc ça fait partie du contexte, ça fait partie parfois des difficultés qu'il faut surmonter, mais ça fait partie aussi des éléments qui nous permettent de nous remettre en question au quotidien et de pouvoir avancer collectivement au service des habitants d'Ilkirch-Graffenstaden. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vraie volonté de cette équipe municipale qui a été renouvelée d'être au service des habitants d'Ilkirch-Graffenstaden, de pouvoir les servir quotidiennement, de leur apporter le meilleur service public et de faire en sorte que finalement on ait encore envie dans les prochaines années d'habiter Ilkirch-Graffenstaden plus que dans d'autres communes à côté ou en France. Voilà. Donc je remercie les personnes qui sont ici et je vous remercie pour vos interventions. Je vous propose à Madame Magdelaine une petite poire pour la soif.
Sur les questions de concertation, parce que manifestement on n'a pas la même vision. Je vais montrer juste au public, voilà ce qu'on a eu comme information sur la Méja. En tant qu'élu, on a juste une simple feuille, même une simple page, en fait, de descriptif. C'est pas vraiment la conception que j'ai de la concertation et du travail collaboratif, notamment avec les élus d'opposition. Et puis sur la question du contexte international, je parlais de la hausse des matières premières, du coût de l'énergie, pas qui va impacter directement la ville d'Ilkirch, mais qui impactera les projets d'investissement que vous avez prévus et qui risqueront donc d'impacter lourdement les finances de la ville. Mais vous avez beau multiplier les longues tirades pour essayer de nous endormir, nous restons déterminés à faire entendre notre voix et surtout à aider les Ilkirchoises et les Ilkirchois à comprendre l'état réel des finances de leur ville. La transparence, ce n'est pas juste un slogan, Monsieur Philippe, c'est un devoir. Et je vais vous présenter clairement la situation. Notre ville a longtemps été reconnue pour sa gestion financière. En 2020, nous vous avons laissé un matelas financier de 21 millions d'euros. Cela peut sembler beaucoup, mais il était destiné à financer et surtout à réaliser l'école Lieberman, le hall des sports avec des locaux associatifs, de vraies tribunes pour la FAIG, une maison des services avec un nouveau centre socio-culturel et un pôle petite enfance. L'ensemble représentait 48 millions d'euros d'investissement, financés avec les emprunts qui avaient été faits à l'époque et grâce à une épargne annuelle de 5,4 millions d'euros. En 6 ans, cela aurait représenté plus de 32 millions d'euros d'autofinancement. Parmi ces investissements, seule l'école Lieberman a été réalisée. Mais dans le même temps, les dépenses de fonctionnement ont fortement augmenté. Entre 2020 et 2026, c'est une augmentation de plus 6 millions d'euros, alors que les recettes, elles, n'ont progressé que de 3,7 millions. Et vous nous parlez d'économies de 40 000 euros de frais de formation. Les dépenses de personnel, quant à elles, ont augmenté de plus de 4,1 millions d'euros et les prestations de services de 1,2 million. Quand les dépenses augmentent plus vite que les recettes, forcément, on épargne moins. 5,4 millions en 2020, à peine 3 millions en 2026. La situation n'est pas catastrophique, mais elle est préoccupante. Le matelas financier de 21 millions d'euros est tombé à 9 millions. Et avec les 14 millions d'euros inscrits en dépenses d'investissement pour 2026, vous savez très bien que 2027 sera une année extrêmement tendue, surtout sur de nouveaux projets qui ne sont pas encore planifiés, doivent être lancés. D'autant que vous nous proposez également d'approuver des autorisations de programme pour 39 millions d'euros d'ici 2030. Notre question est simple. Comment allez-vous financer tout cela? Car c'est ça la vérité. Vous avez promis de ne pas augmenter les impôts. Vous avez promis de ne pas augmenter les tarifs des services publics. Vous vous félicitez de ne pas recourir à l'emprunt. Et vous ne proposez aucune mesure sérieuse de maîtrise des dépenses. Pourtant, il y a urgence à agir. Il faut fixer une feuille de route claire pour restaurer notre capacité d'autofinancement. Et celle-ci viendra peut-être uniquement en septembre, voire au mois de mars l'année prochaine. Il faut investir utile, optimiser les projets, rechercher des subventions, mieux maîtriser les dépenses en travaillant avec les services, sans suppression de postes. Et il faut assumer, un recours raisonnable à l'emprunt. En 2020, notre dette était de 414 euros par habitant, très en dessous de la moyenne des villes comparables qui était à 950. Vous vous félicitez aujourd'hui d'être à 81 euros. Mais l'endettement n'est pas un tabou, c'est un outil. Nous attendons un véritable travail sur les dépenses de fonctionnement et nous vous faisons des propositions concrètes. Renoncer au recrutement des 6 policiers municipaux supplémentaires qui pèseront lourdement encore plus sur les charges de personnel. Suspendre également l'installation de nouvelles caméras pour plus d'1 million d'euros tant qu'une évaluation indépendante n'aura pas été réalisée. Les études nationales montrent que leur efficacité est très limitée et qu'aucune corrélation n'existe entre le nombre de caméras et la baisse des infractions. Et ici à Ilkirch, malgré l'augmentation continue du parc, les problèmes de tranquillité publique persistent. C'est la première préoccupation des Ilkirchois. Vous n'apportez aucune évaluation sérieuse de l'impact réel de ces dispositifs. Nous finançons un système de plus en plus coûteux sans preuve de résultat. Vous avez un devoir de vérité et de transparence envers les Ilkirchoises et les Ilkirchois. Et il n'est pas trop tard pour corriger la trajectoire. Gouverner, c'est regarder la réalité en face et agir avec lucidité. L'avenir de notre ville n'est pas compromis, mais il dépend des choix que nous faisons aujourd'hui.
Merci, Madame Magdalene. Oui, Monsieur Vivet.
Juste une précision. Bon, sur les frais de formation, on ne va pas épiloguer. Ils ont quand même augmenté de 12K pour aller à 100K, mais peu importe. Je pense que quand on fait un budget, c'est la traduction politique d'un certain nombre de choix qu'on met financièrement. Aujourd'hui, dans le budget qu'on a, et c'est ce que je vous évoquais sur le fait que ça sera très long, y compris jusqu'en 2027, c'est qu'on va être confronté à un certain nombre de mutations structurelles. On va parler de la fonction publique et de l'emploi. Aujourd'hui, les premiers opérateurs de l'État avec l'intelligence artificielle doivent rendre entre 10 et 15 postes, 15% des postes, pardon, sur ce point. Il est illusoire de croire que les collectivités locales sur un certain nombre d'emplois ne seront pas touchées dans les 6 ans par l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, pas les emplois, ce qu'on appelle de front office, c'est-à-dire les ATSEM, les personnes qui sont dans les écoles, mais un certain nombre de tâches vont disparaître. Donc cette question-là, on l'aura à l'affronter. Sur la question du scolaire et du périscolaire, il commence à y avoir un débat très intéressant entre la ville-centre et les villes périphériques. On le sait tous que dans les grandes métropoles, le cœur de la métropole va se vider de ses enfants. On sait que Strasbourg, dans un certain nombre de quartiers, ça va se vider, comme Paris. Or, tout l'effort va porter sur la première et deuxième couronne, là où il est plus facile de se loger, là, il y aura plus d'enfants. Ça va poser une question d'équité des contribuables. Voyez bien qu'à Paris, entre la première couronne et le centre, le 6e, 7e, 8e arrondissement auront 50% des écoles fermées d'ici 3 ans. Bah, plus besoin d'un service scolaire, plus besoin d'investir. Donc il y a un moment, il va y avoir des effets de déport. Donc cette question-là du scolaire, comme vous l'avez dit, et vous avez parlé du quotient familial pour financer, il faudra qu'on présente des simulations. Est-ce que c'est encore juste de garder le quotient familial, c'est ce que dit la Cour des comptes, ou est-ce qu'il faut sortir les déclarations d'impôt sur le revenu? C'est tous ces points-là qu'on va devoir arbitrer. Derrière ces poids, il y a un certain nombre d'investissements, les cantines, la stratégie des écoles, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on sait tous que Strasbourg va se vider dans un certain nombre de quartiers, le recteur, ça a commencé à fuiter, je crois que c'est moins 21%, et c'est concentré plus fortement dans les secteurs de l'Orangerie et les secteurs périphériques de la ville, comme la Neustadt. Voilà, donc à un moment, il va falloir avoir ces débats de fond, et je pense qu'aujourd'hui, au vu du contexte actuel, et vous avez dit, on va de crise en crise, je pense que gouverner, c'est anticiper, et à un moment, le budget municipal, il faut savoir faire bouger les curseurs un petit peu plus vite, et des fois un petit peu plus vite qu'un certain nombre de paramètres de l'État. Voilà, mais c'est un vrai débat politique qu'il faut avoir.
Merci. Bon, au moins, j'aurais eu l'impression d'être un peu maire de Paris, un peu maire de Strasbourg, et ensuite d'être revenu à Ilkirch. Ça nous ouvre des perspectives, c'est quand même très sympathique. Mais pour être plus sérieux, moi je veux bien qu'on dise qu'il faut une stratégie et autres, mais reconnaissez que c'est quand même sain en début de mandat de travailler en présentant un budget qui donne une trajectoire et qui permet un certain nombre de projets et de services publics de fonctionner, à des projets de se poursuivre, puisque le hall des sports il est quand même bien en construction, hein, donc on ne va pas l'arrêter, le figer en se disant le temps qu'on trouve une stratégie ou autre, mais de pouvoir justement établir à l'aune d'un nouveau mandat qui peut-être en plus durera un petit peu plus longtemps que ce qui est prévu par les textes au regard des discussions qui existent au niveau national, de pouvoir avoir une stratégie claire sur laquelle on puisse ensuite dérouler finalement une programmation pluriannuelle qui soit tout à fait stabilisée. Et je pense que vous me faites un faux procès, puisque juste avant, je parlais justement de la capacité d'endettement. J'ai toujours dit que l'intérêt dans une commune, c'était de pouvoir faire en sorte d'avoir des capacités d'endettement quand on en a besoin. Moi, ce que je regrette, c'est que la situation que nous avons trouvée quand on est arrivé aux responsabilités, c'est qu'on avait virtuellement 21 millions d'euros. Mais en réalité, on avait 21 millions d'euros avec de la dette dedans. On avait 10 millions d'euros quasiment de dette qui était injectée dans ces 21 millions d'euros. Et d'ailleurs, on a payé de nombreuses années une dette qui nous a coûté très cher pour ne pas être investi. C'est la réalité. Et d'ailleurs, rappelez-vous, puisque c'était le débat, en 2018, vous avez demandé aux établissements bancaires qui avaient prêté de pouvoir faire du remboursement par anticipation. Et ça n'avait pas marché. Et donc, on avait dû retravailler le sujet. On avait réinterrogé les établissements bancaires et on a réussi à obtenir le remboursement par anticipation. Puisque moi, je considère que... Enfin, c'est comme un foyer. Hein, je ne me crée pas une trésorerie en faisant de la dette. Quand je m'endette, en général, c'est parce que j'achète un appartement, parce que je remplace mon véhicule, mais je le fais tout de suite. J'attends pas. Et c'est vrai que vous avez beau dire qu'il y avait le pôle petite enfance, qu'il y avait le hall des sports et tout ça. Moi, je veux bien. Hein. C'est bien de mettre des tirets sur un papier pour dire qu'il y a un projet. Mais à un moment, quand il n'y a pas eu de travaux de maîtrise d'œuvre, quand il n'y a pas eu de jury, quand il n'y a pas eu de préparation du projet, enfin, je veux dire, c'est quand même un peu léger. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de rêves. Hein. Et je pense que toutes les personnes ici autour de la table ont beaucoup de rêves. Mais il ne suffit pas de mettre ça sur un papier et de dire c'est ça mon projet. C'est de le faire et de le réaliser. Et en réalité, ce qui est dommage, et ce que vous ne voulez pas reconnaître, c'est que ce n'était pas 48 millions d'euros, là, tout ce que vous vouliez faire et ce que vous aviez en projet. Puisque, regardez, justement, vous me parlez des crises. C'est un très bon exemple, le hall des sports. Le hall des sports, il a fallu revoir le périmètre du hall des sports. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise, notamment des matériaux, qui a fait que les matériaux ont très fortement augmenté et que pour rester dans l'enveloppe initiale des 16 millions d'euros qui avait été déterminée dès le départ, il fallait revoir le projet. Et donc, en fait, aujourd'hui, on sort un projet à 16 millions d'euros, bien parce qu'il y a eu une augmentation et une crise entre-temps, qu'entre-temps, on a trouvé en plus un partenaire, puisque vous dites qu'il faut travailler avec les partenaires et tout ça, c'est plutôt bien, puisqu'on a une délibération après avec la CEA qui va abonder sur un certain nombre de projets en matière de subventions, qu'on a trouvé un autre partenaire qui est la région Grand Est pour pouvoir construire un gymnase sur le site du Corbusier qui va nous permettre d'avoir la deuxième salle qu'on aurait dû avoir sur le hall des sports qui sera au Corbusier, à l'angle de la rue Lixembul et Corbusier, donc juste en face du complexe du Lixembul, ce qui a quand même un intérêt, puisque... En fait, les créneaux qu'il fallait qu'on puisse libérer, c'était essentiellement des créneaux scolaires, notamment des lycées. Et donc, ils vont pouvoir se faire en grande partie dans ce nouveau gymnase du Corbusier. Et que le soir, le week-end, ça sera exclusivement pour les associations d'Ilkirch-Grafenstaden. Et donc, ça va permettre de regrouper certains fonctionnements de clubs pour redonner de l'air dans d'autres infrastructures qui étaient aujourd'hui saturées. Donc, je pense que justement, il y a ce travail qui est fait depuis le début du mandat précédent sur... la recherche de partenaires, le travail avec les services, puisqu'en fait, le budget qu'on présente, il a quand même été construit en lien avec nos services. Et je pense que justement, ils essayent au quotidien de trouver des optimisations. D'ailleurs, vous le voyez bien, puisque sur les charges à caractère général, on a réussi à limiter la tendance inflationniste parce qu'on a fait des investissements, notamment pour la transition. Par exemple, l'éclairage public, moins 10% de consommation d'énergie. Moins 2% de consommation de nos bâtiments publics en termes d'électricité. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même un certain nombre d'investissements, justement, qui permettent de limiter ce qui devrait être une dynamique hyper-inflationniste. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'optimisation. D'un autre côté, vous dites qu'il faut faire des économies ou autres, mais alors sans suppression de postes. De toute façon, on n'a jamais parlé de suppression de postes jusqu'à présent, puisqu'on a renforcé, justement, un certain nombre de postes, puisque, justement... ça ne fonctionnait pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas nous reprocher d'avoir ajouté un ATSEM par classe, parce que c'est sûr que quand on avait des ATSEM volantes, ben enfin, vous voyez le concept de volante, quoi. C'est que c'est difficile pour créer une relation avec les enfants et l'enseignant qui est dans la classe, donc c'était mieux quand même d'avoir un ATSEM par classe pour nos enfants maternels. On a créé effectivement un certain nombre de postes d'encadrement. Là, c'est 6 à 7 ETP supplémentaires pour l'encadrement des 118 enfants supplémentaires en périscolaire. Ben, Forcément, on le fait pour être dans des taux d'encadrement, offrir un service public de qualité et éviter de dire à ses enfants, vous ne pouvez pas venir à la cantine ou vous ne pouvez pas venir au périscolaire. Donc forcément, ça a un coût. Et finalement, les coûts, c'est essentiellement ça. Après, sur la police municipale et sur la sécurité, de toute façon, définitivement, nous n'avons pas la même vision. On n'a pas la même vision, de toute façon, donc on en a déjà discuté. Moi, j'estime que la sécurité, c'est la priorité des priorités. Si on veut vivre dans un cadre de vie apaisé, il faut de la sécurité qui repose sur deux éléments, la prévention et la sécurité qui est répressive. Et les deux sont mises en œuvre, notamment avec la police municipale, qui fait un rôle de lien social, parce qu'on demande autant à la police municipale d'aller agir sur un certain nombre de sujets que de faire le tour de nos commerçants, d'aller auprès des habitants, d'aller dans les différents quartiers, prendre contact avec les gens, essayer de déceler quand il y a une problématique qui est perçue, et d'avoir la plus grande réactivité. Et la vidéoprotection aujourd'hui, ça a une utilité, puisque la vidéoprotection aujourd'hui, ça a une utilité non seulement pour pouvoir déceler certaines incivilités, c'est ce qui arrive parfois quand il y a des problématiques spécifiques, notamment ça est arrivé devant certaines écoles de la ville, hein, on a équipé la plupart des écoles de vidéoprotection, et ça sert aussi beaucoup ensuite en résolution d'affaires, puisque dans le cadre de l'enquête, les images sont systématiquement mises de côté, et donc on a un taux quand même d'élucidation qui est important grâce aux caméras. Et sur des choses, et puis vous savez, même sur des choses très basiques, hein. Là, la dernière fois, dans la zone Denis Papin, on a un poids lourd qui nous a fait trois poteaux, trois candélabres. C'est 3000 euros le candélabre. Ben, grâce à la caméra qui est dans la zone, on a la plaque d'immatriculation, on a pu engager une procédure à l'encontre de la société, alors que dans la réalité, en général, malheureusement, vous arrivez un matin, vous avez vos trois candélabres qui sont cassés, puis vous vous dites, bon, ben, tant pis, c'est encore pour la collectivité. Et donc, ça vous fait 9000 euros à remettre en place, alors que, en fait, le matériel était déjà en place. C'est arrivé l'autre jour sur une personne qui s'était fait voler le vélo. On a réussi, grâce aux images et les enquêteurs de la police nationale qui ont reconnu la personne, ont pu aller l'interpeller. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, mais ça, on pourra vous donner les exemples et vous montrer la réalité. Mais aujourd'hui, moi, je pense que la vidéoprotection, ça a un vrai rôle quand il y a un bon maillage. Et ça ne fonctionne que quand il y a un bon maillage. Et donc forcément, pour avoir un bon maillage à l'échelle d'une ville de la taille d'Ilkirch, il faut investir un petit peu, sachant qu'on a un système qui est quand même extrêmement performant. Et d'ailleurs, je dois dire que pendant la campagne électorale, c'était quand même quelque chose qui était sollicité par les habitants. Enfin, je veux dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je pense vous aussi, la vidéoprotection, c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Et d'ailleurs, je reçois même des courriers à la mairie pour me dire, est-ce que je ne pourrais pas avoir une caméra dans ma rue ? Ça me rassurerait. Alors, on ne pourra jamais mettre une caméra dans chaque rue de la ville, et ce n'est pas le but. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout quelque chose qui est rejeté par la population, bien au contraire. Et donc, je pense que la sécurité, ça doit être un pilier aussi de l'action publique et de l'action publique locale, sachant qu'on sait très bien que malheureusement, un certain nombre de moyens qui sont mis à disposition par l'État sont insuffisants. Et donc, effectivement, parfois, il faut compenser. Alors, c'est une situation qui est pas toujours plaisante, mais c'est quand même la réalité aujourd'hui de ce que nous vivons dans nos communes. Et ensuite, sur le périscolaire, c'est sûr qu'il faudra avoir une stratégie sur le mandat qui vient pour pouvoir supporter justement cet afflux d'enfants, sachant quand même que dans les perspectives d'évolution démographique à Ilkirch-Graffenstaden, l'étude qui avait été faite pour retravailler la carte scolaire, on est sur quelque chose qui est stable, voire qui décroît légèrement. Donc, on n'a pas aujourd'hui une inquiétude supérieure sur le fait qu'on aurait un afflux massif. Bien au contraire, l'afflux qu'il y a pu avoir, notamment sur le mandat précédent, a parfois tout juste permis de sauver telle ou telle classe et d'éviter telle fermeture, ce qui a été une situation régulièrement qui nous a fait craindre avec Elisabeth Dreyfus, hein, puisque à chaque fois, on était des fois juste proche du seuil de fermeture, et on sait que dans des petites écoles, c'est quelque chose qui est vraiment complexe à gérer, hein, notamment en classe de maternelle, hein, quand on se retrouve à avoir que trois classes dans l'école et qu'en fait, il y en a une qui ferme, ça veut dire qu'on met deux niveaux en un seul, et c'est pas du tout bon pour l'éducation des enfants d'avoir ce type de situation. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que c'est des vrais sujets. Et c'est pour ça qu'on a cette volonté de pouvoir aussi établir une stratégie financière pour le prochain mandat et de présenter les premiers éléments en septembre, parce que je trouve que
ça reste raisonnable entre avril et septembre de l'année 2026 de travailler sur une stratégie financière. Enfin, je ne pense pas que ça soit si catastrophique que ça et que ça soit honteux ou la fin du monde parce qu'on aurait pris quelques mois pour justement poser les choses et poser un certain nombre de sujets. Moi, je pense que c'est une méthodologie saine. Et d'ailleurs, je vois que tous mes collègues partout dans les conseils municipaux que je connais ou même à l'intercommunalité, on est à peu près dans la même perspective de poser les choses et de pouvoir établir une stratégie, ce qui paraît normal au début d'un mandat. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Oui, monsieur Vivet.
La police, justement, c'est un débat qui est intéressant. La question, bon, moi, bien sûr, je suis favorable à la vidéosurveillance et je suis même favorable à l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que je considère qu'il n'y a pas des villes de deuxième zone et puis des villes de première zone. Hein, la sécurité n'est pas réservée qu'aux Parisiens lors de certains événements et festivités. Et puis, nous, on n'a pas le droit de l'utiliser. Ce qui est assez malhonnête de la part du gouvernement, c'est que pendant les campagnes des municipales, on nous a fait miroiter la belle loi sur l'extension des pouvoirs de la police municipale. C'était comme la loi de décentralisation. On savait tous que c'était un vaste mensonge. Hein, les policiers municipaux allaient pouvoir faire des contrôles d'identité. Je me souviens du Beauvau de la sécurité. Tout le monde savait que le Conseil d'État, dans son avis, avait dit que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ça va accoucher d'une souris. On n'aura pas une extension massive des prérogatives de la police municipale. Mais le problème de fond à Strasbourg et dans l'Eurométropole, c'est la question de la répartition des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie comme de nombreuses villes. Ce n'est pas acceptable que certains bénéficient d'effectifs de la police nationale ou de la gendarmerie des plus petites villes. Il y a des villes de 21 000 habitants, 27 000 comme Ilkirch, qui n'ont pratiquement pas d'effectifs à demeure. Et on sait tous que cette répartition doit être revue par rapport à ça. Et à un moment, il est normal. Et c'est normal, le contribuable paye la police nationale, le contribuable paye la gendarmerie, le contribuable paye aussi les polices municipales qui sont intégralement financées par le maire qui est l'employeur. Donc cette question-là, à un moment, il va falloir la poser. Ce n'est pas acceptable qu'à Ilkirch, moi je peux vous citer des villes, hein, Ronc, choses comme ça, hôtel de police, police municipale. Enfin, il y a un moment, il va falloir aussi poser la réalité au préfet, au directeur de la santé publique. La deuxième chose, on sait tous que le commissaire de Strasbourg, il y a 460 équivalents temps plein. Il y en a 70 qui ne sont pas présents, notamment aussi sur l'encadrement. Qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur? Parce que pendant ce temps-là, moi, je n'ai pas vu les impôts sur le revenu baisser des contribuables. Donc, à un moment, je pense que dans les stratégies de sécurité, vous l'avez dit, il faut une complémentarité. La police municipale ne sera jamais la nationale. La nationale évolue aussi de plus en plus vers des métiers d'investigation et spécialisés. Mais à un moment, il va quand même falloir, vis-à-vis de la population, avoir un débat posé. Et je pense que ça ne va pas être acceptable très longtemps d'avoir des villes dans le Bas-Rhin où certains ont les deux assez tranquillement. Parce que ça, c'est facile, hein, d'avoir des résultats quand vous cumulez la complémentarité. Moi, j'ai vu des reportages à la télévision où il y a carrément les équipages communs, police nationale, police municipale. Alors là, ça démultiplie les pouvoirs des uns et des autres. Là, on peut faire du contrôle d'identité. Là, on peut rentrer sans aucune difficulté dans un certain nombre de locaux et autres. Et donc, je pense qu'à un moment, on ne fera pas l'économie, puisque je sais que dans votre programme électoral, vous avez évoqué la police des transports. J'ai vu qu'aussi certaines communes font des polices municipales communes à plusieurs communes. À un moment, il faudra quand même poser la question du tabou de la gendarmerie, de la police nationale et de leur répartition. Je parle des effectifs de la police nationale liés à ce qu'on appelle la sécurité publique. Je ne parle pas des services d'investigation.
Merci. Oui, Madame Dreyfus.
Merci, Monsieur le maire. Alors moi, je vais me concentrer sur Ilkirch, hein, si vous le voulez bien. En termes d'effectifs, effectivement, ce que disait Monsieur le maire, c'est que les projections, parce que nos services travaillent et on réfléchit à l'avenir et on travaille sur ce qui va advenir, les projections sont effectivement plutôt en baisse sur le nombre d'enfants à Ilkirch. Donc il n'y a pas lieu pour l'instant de s'affoler. Évidemment que le service continue à travailler, on est toujours à l'affût, mais en tout cas aux aguets, mais en tout cas pour l'instant les projections sont en baisse et on le remarque déjà au niveau de la petite enfance à Ilkirch. Hein, c'est déjà le cas. Chaque année on a des enfants en moins. Et puis alors au niveau sécurité, moi pour parler éducation, je peux vous dire que 100% des conseils d'école demandent la vidéoprotection, on en parle à chaque conseil d'école. Quand ils n'ont qu'une caméra sur le parvis, ils en veulent une à l'arrière et une encore à l'avant. Et si on les écoutait, on mettrait 12 caméras autour de l'école. Donc c'est vraiment une demande. C'est une demande des équipes enseignantes, c'est une demande des parents élus, c'est une demande de tout le monde. Alors évidemment, on reste dans des ratios raisonnables, mais en tout cas, les gens se sentent en sécurité dans les écoles avec la vidéosurveillance. Et puis au niveau de nos agents de police municipaux, monsieur le maire l'évoquait, il parlait de la partie prévention. Moi, je peux vous dire que nos agents municipaux sont présents dans les écoles pour faire différents types de prévention et que ça me fait vraiment plaisir quand je vois au marché ou dans la rue des enfants de 8, 9, 10, 11 ans se précipiter sur nos agents municipaux, leur serrer la main, leur appeler par leur prénom et avoir une vraie relation de confiance. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire à Ilkirch. C'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer les choses et d'améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité. Et je suis très heureuse d'avoir pu créer cette proximité entre nos agents et puis le service de l'enfance à Ilkirch. Merci, monsieur le maire.
Merci. On ne fera pas tout le débat sur la sécurité publique, mais c'est sûr qu'il y a quand même un travail qui a été initié sur le mandat précédent entre la police municipale et la police nationale. On fait régulièrement beaucoup d'opérations communes. On a fait plusieurs opérations assez récemment. On a fait une opération sur la lutte contre le narcotrafic qui nous a permis de démanteler un réseau assez important au sein de la commune qui était justement surveillé par la police nationale, et l'opération s'est mise conjointement en place avec la police municipale qui a permis de pouvoir aussi grouper les forces. Il y a au moins 2 opérations par mois qui sont des opérations communes avec la police nationale sur tout ce qui est délit routier, différents points stratégiques de la commune, qui est plutôt lié à tout ce qui est défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, défaut de contrôle technique, qui sont quand même des fléaux qui sont de plus en plus importants. Parce qu'en général, on ne fait pas une semaine sans qu'on ait au moins une personne sans permis de conduire ou sans assurance. Donc ça, c'est quand même un fléau quand même sur les délits routiers. Et il y a tout ce travail qui est mené conjointement, puisque vous savez qu'on a la chance d'avoir une BST, une brigade spécialisée de terrain qui est affectée au sud et dont la patrouille en fait est centralisée sur Ilkirch en lien avec notre commissariat d'Ilkirch-Grafenstaden qui est là plutôt pour faire de l'investigation et prendre les plaintes des habitants du secteur. Mais en tout cas, il y a ce travail qui est fait et des opérations de prévention qui sont menées puisque souvent la police municipale intervient dans les classes avec la police nationale. Et d'ailleurs, on a mis en place il n'y a pas très longtemps le permis internet qui est plutôt orienté sur toutes les dérives par rapport au harcèlement qui peut se faire sur les réseaux, aux différentes arnaques. Il y a tout un travail qui est fait aussi avec nos aînés pour pouvoir les sensibiliser puisqu'il y a beaucoup de démarchages frauduleux, de choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment un travail construit sur l'ensemble des choses, mais effectivement on aimerait parfois avoir un tout petit peu plus de moyens, mais comme je ne suis pas encore ministre de l'Intérieur ou président de la République, je n'ai pas encore les moyens de pouvoir agir tout à fait bien. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. En tout cas, je ne voudrais pas qu'il y ait de fausses rumeurs. Parce que mais on s'adresse tout le temps au préfet et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est fait, que ce soit le directeur de la sécurité publique que j'ai régulièrement dans mon bureau, monsieur Jean Hayet, ou le préfet qu'on rencontre aussi régulièrement, et particulièrement sa directrice de cabinet, Madame Raquette, puisque c'est la sous-préfète en charge des questions de sécurité. Et d'ailleurs, on a plusieurs points dans l'année, et puisque vous savez que le travail de la police municipale est encadré par une convention de coordination qui est signée avec le préfet et qui cadre les missions communes. Et d'ailleurs, on a aussi réparti certaines missions avec la police nationale, puisqu'un habitant de la ville qui appelle le 17... se retrouve parfois à avoir la police municipale qui est dépêchée par le 17, puisqu'on a aussi essayé d'optimiser certaines missions en fonction du degré de gravité et de la compétence et de la possibilité d'intervention des uns et des autres, ce qui est quand même une bonne chose. Je vous propose du coup de passer au vote. Alors, on va voter un rapport par un rapport. Alors, sur l'actualisation 2026 des autorisations de programme et de crédits de paiement, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions. Parfait.